Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une histoire qui se passe en Espagne, sur l'île de Majorque, dans un village de 1500 habitants qui s'appelle Buñola et qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Palma, dans le massif montagneux de la Serra de Tramuntada, tout au milieu de la forêt. Chaque matin de la semaine, à 8h30, les parents se retrouvent à la sortie du village, dans un parc pour enfants. Là, de l'autre côté de la rue, comme dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une petite porte qui mène vers la forêt et la montagne. Les enfants et leurs deux accompagnatrices, Linda et Patty, passent cette porte quasi magique et c'est alors que commence vraiment la journée. Ils grimpent ensemble dans les hauteurs et choisissent un lieu propice pour établir un camp de base qu'ils fabriquent avec une bâche au sol et des couvertures. Chaque enfant peut alors déposer son sac à dos qui contient son pique-nique et des vêtements de rechange. Ensuite, les enfants se dispersent dans la forêt et font à peu près ce qu'ils veulent. Cette drôle d'école, car c'est une école, repose sur le jeu libre. Rien n'est imposé, ni même réellement suggéré. Seules les demandes des enfants sont prises en compte. On répond à leurs désirs et on se contente de le suivre. Et c'est ainsi chaque jour pour ces enfants de 2 à 6 ans, avant d'aller à l'école obligatoire et de s'asseoir sur des chaises pour recevoir, parfois passivement, un enseignement jugé approprié. Ce projet, qui est basé sur le jeu libre, existe depuis 5 ans, en 2017. 3 familles de Palma sont venues s'installer à Buñola dans l'unique but d'inscrire leurs enfants à l'école de la forêt. On écoute donc tout de suite cette histoire, ainsi que les enfants et les bruits de cette belle forêt, au micro évidemment de la très sylvestre Inès Leroux. Les pieds sur terre, quartier d'été et bientôt la rentrée, c'est parti.
Moi j'aime bien monter à la montagne. Moi, je veux ça, ce bâton.
Je veux monter la montagne.
Tu veux monter dans la montagne avec moi?
Pas tout.
Ah, ça c'est pour toi.
Je ne peux pas
habiller. Et celui-là, c'est pour moi.
Venite a ver esto, el árbol está seco.
Mira,
está todo seco y nosotros tenemos peto.
Ouais, ils disent la forêt elle est sec, mais on a tous les habits de pluie, pourquoi? Linda elle disait non, mais attendez, moi je sens les gouttes. Donc ils se sont mis à écouter les gouttes et elles ont dit que ah, j'ai senti un peu de petites gouttes toutes fines, toutes fines. Ah ouais, bon, on va garder alors le kawaii, le pantalon de pluie.
Je m'appelle Yasmine, j'ai 2 filles qui ont 4 ans et demi et 1 an et demi. Et ça fait à peu près 6 ans qu'on vit à Majorque. J'ai grandi une partie de ma vie en France, en Allemagne, et j'ai vécu une grande partie aussi de ma vie au Liban. On est arrivé à Majorque parce que mon compagne est médecin et il a trouvé une place pour faire sa spécialité là-bas. Et donc, voilà, on a débarqué à Majorque sans y avoir été tous les deux, jamais en fait. Et du coup, c'était une grande surprise de voir que c'était quand même un lieu assez agréable. Mais bon, assez limité aussi. La société est quand même très fermée, très... on est très dans un endroit où on est bien comme on est en fait. Quand notre fille avait 1 an, on a commencé à se dire que ça serait bien que je récupère un peu de temps pour moi, parce qu'en gros je travaillais à la maison, je travaillais quand elle dormait ou alors tôt le matin ou tard le soir. Et du coup, on se disait que oui, que c'était bien que, comme d'autres enfants, elle aille dans un lieu où il y a plus d'enfants aussi. Mais la seule option dans le village où on est, qui s'appelle Bougnola, en fait, c'était une garderie municipale. Et donc, j'allais avec Amar là-bas le matin. Je restais avec elle pendant, je sais pas, le temps que j'avais l'impression qu'elle est bien, que je puisse partir. Et moi, ça me choquait. On se rendait pas compte que c'était fait pour des êtres humains, en fait. Ça ressemblait plus à un garde-meuble, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait peu de lumière, peu de fenêtres. Enfin, c'est presque un sous-sol, en fait. Et par ailleurs, voilà, le sol, c'était tout du plastique, en fait, qui était nettoyé, je ne sais pas si tous les matins ou tous les deux matins, avec de l'eau de Javel. Voilà, enfin, les enfants, ils étaient par terre. Et puis, voilà, quand moi je proposais, mais que ça serait plus simple, par exemple, que les enfants et les éducatrices enlèvent leurs chaussures de la rue, en fait, vu que c'était des enfants qui, en grande partie, pouvaient même pas marcher. Amar, elle était en fait la seule à marcher dans le groupe. Et l'éducatrice me disait, ah, mais c'est très compliqué ça, si tout le monde doit enlever ses chaussures et tout. Je me suis dit, bon, j'ai fait la proposition que je pourrais mettre une étagère ou, je sais pas, offrir des petites chaussettes pour chaque enfant pour faciliter la chose. Et quand elle m'a dit que c'était tellement compliqué que c'était pas possible, je me suis dit, bon, d'accord, on abandonne parce que si ça c'est pas possible, rien sera possible.
Il y avait une partie extérieure ?
Ils ont une cour qui est toute bétonnée, en fait, avec du gazon artificiel. Donc, un lieu très sympathique. Amar, par ailleurs, avait exprimé très clairement que ça ne lui plaisait pas. Elle faisait, en fait, des tours dans cette pièce et elle hurlait sans s'arrêter. Donc, les parents, ils me disaient, bah, c'est pas grave, elle va s'habituer, non ? Comme tous les enfants, ils s'habituent. Oui, mais bon, moi, je n'avais pas vraiment envie qu'elle s'habitue à ça. Enfin, il faut se poser quand même la question, hein, qu'est-ce qu'on s'habitue et qu'est-ce qu'on s'habitue certainement pas. Et du coup, ben, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est, en fait, que j'ai envie pour elle, non ? Et pas dans le sens, quelle belle école j'ai envie de lui trouver, qui a du matériel Montessori, et qui coûte très cher, et qui est fantastique, elle va devenir une super élève. Non, c'est pas vraiment ça, c'est pas ça les questions que je me posais. Ici, ben, 3 à 6 ans, on est déjà dans un contexte d'apprentissage, quoi. Il faut assimiler des connaissances, il faut apprendre à s'asseoir sur une chaise et rester assis sur sa chaise, ce qui est complètement contradictoire si on réfléchit qu'un enfant entre 0 et 6 ans, ce qu'il développe réellement, c'est tout son appareil psychomoteur. Et l'école, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle apprend aux enfants de pas bouger et de pas utiliser leurs jambes, enfin voilà, de couper le corps en deux et d'utiliser les mains seulement si c'est possible, sans bouger trop le torse. Et puis voilà. Moi, j'avais une référence à un modèle un peu différent, qui est le modèle allemand, en fait, où effectivement il y a 2 à 6, en fait, c'est ce qui est le jardin d'enfants, et ensuite à 6 ans on va à l'école, en fait. Et le jardin d'enfants, il y a vraiment l'idée que c'est pas une école, c'est autre chose, en fait, on joue.
Me gusta mucho jugar.
J'aime bien jouer.
Un día encontré una piedra que tenía forma de barco.
Un jour, j'ai trouvé une roche qui avait la forme d'un bateau.
¿Sabes cómo se sube en este avión?
Ah, vous voulez voir comment on monte dans cet avion?
Ah, c'est la pierre avion.
Non, la piedra no es el avión.
La roche, c'est pas l'avion. L'avion, c'est l'arbre.
L'arbre qui est à côté de la pierre. Mais c'est périlleux d'aller de la pierre à l'arbre. Et la pierre te permet d'entrer dans l'arbre.
Pourquoi ? Sabes que la puerta es el aeropuerto.
Ah, la pierre, c'est l'aéroport.
Et cet avion va hacia Barcelona.
Et cet avion, il va vers Barcelone.
Es un avión mágico. Si sube unos que quieren ir a Berlín o a Roma o a Italia o a Europa, a un sitio, pues el avión se cambia.
Ajá, donc parfois l'avion, en fait, c'est un avion magique et il peut aller soit à Berlin, à Rome, en Italie, en Europe. Et si les gens ils veulent aller où ils veulent, en fait, l'avion il change et il va où on veut.
Finalement, je me suis rappelé en fait d'un projet que j'ai connu parce que je vivais dans une ville en Allemagne, à Wiesbaden, où il y a le premier jardin d'enfants de la forêt, en fait, le premier Waldkindergarten, qui a été créé en Allemagne en 68. Et ça a été créé par une dame qui était en fait actrice du théâtre et qui à un moment s'est retrouvée toute seule avec ses trois enfants, il me semble. Elle a commencé à passer ses matinées avec ses enfants à la forêt, et puis du coup après elle a pris les voisins et les amis des voisins, etc. Et puis du coup tout le monde voulait amener ses enfants avec elle à la forêt. Elle, son idée était vraiment très très simple, c'était de passer la matinée avec les enfants dans la nature. Et avec toutes ces années, ils ont créé tout un monde imaginaire dans la forêt. Donc quand on écoute les enfants parler, ils parlent de l'arbre qui raconte des histoires, du lac où vivent les fées, la pelouse du ciel, enfin il y a tous ces lieux. C'est vraiment toute une cartographie qu'ils ont dans la tête. Et c'est en parlant de ces lieux imaginaires, en fait, qu'ils savent où ils vont aller aujourd'hui, parce qu'ils décident le matin démocratiquement un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà, et donc c'est vraiment basé sur ce modèle, en fait, un peu, que j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à Majorque. Et voilà, et donc là, c'était évident que de faire un projet dans la nature, en plein air, en fait, était la solution la plus évidente et la meilleure aussi, non ? Parce que c'est vraiment en étant dans la nature qu'on apprend à traiter la nature comme un égal. Ensuite, c'est aussi une question économique. C'est la nature, c'est public, ça coûte pas cher, il n'y a pas de loyer à payer. Donc, c'est faciliter les choses aussi. Moi, je parlais aux gens de cette idée de créer un projet pédagogique dans la forêt. Ils me regardaient comme une extraterrestre. C'était vraiment fantastique. Enfin, c'est encore fantastique aujourd'hui parce que c'est toujours le cas, en fait. Avec la seule différence qu'à l'époque, les gens, ils se disaient, bon, bah, ok, elle parle, mais ça va jamais se faire, ce truc, parce que c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'à Majorque, bien qu'il fait quasiment toujours chaud et il fait beau, il y a du soleil. La plus grande préoccupation des gens, c'était « mais qu'est-ce qu'on fait s'il pleut ?» Alors, et pourtant, il y a, je ne sais pas moi, 10-15 jours de pluie dans l'année. Enfin, c'est vraiment pas si grave. Si on se dit que ces écoles étaient inventées en Suède, en Finlande, et qu'aujourd'hui il y en a 1000 et plus en Allemagne, ça semble totalement ridicule de se poser la question du temps, en fait, pour un lieu comme Majorque. Mais c'est le débat principal encore. La question clé, c'était de trouver les accompagnateurs, en fait. On appelle les éducatrices, pas éducatrices. Chez nous, on les appelle accompagnatrices. Parce que justement, ils éduquent pas les enfants, et ils les accompagnent en fait dans leur découverte, dans leur développement, dans leur quotidien. Sachant qu'au départ, on était trois familles, et donc le salaire qu'on avait à proposer, c'était pas non plus énorme. Donc, c'était pas évident. On a fini complètement par hasard à rencontrer Patricia, en fait. Elle est uruguayenne. Et donc, ça faisait, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'elle était à Majorque déjà. Mais elle n'avait jamais travaillé dans sa spécialité, en fait. Elle est pédagogue et psychologue. Mais à Majorque, je pense qu'elle faisait plus des boulots de secrétaire, de nettoyage, etc. Parce qu'en fait, ses diplômes ne sont pas reconnus en Espagne. En fait, la majorité de diplômes d'Amérique du Sud ne sont pas reconnus en Espagne. Bien protéger le marché du travail pour qui a le droit de travailler. Et je me rappelle bien, c'était au mois de décembre en 2014, il pleuvait des torrents et on était chez nous à la maison réunis avec les trois familles qui faisaient partie du projet, et puis on nous avait dit bon bah Patty, elle va venir. Alors je me suis dit bon bah ça c'est la bonne épreuve, hein, on va voir si elle va venir, parce que on vit sur une montagne et on n'arrive pas en voiture chez nous. Il faut monter des escaliers, donc oui, s'il pleut, les escaliers se transforment en petites rivières, et donc il faut monter dans la rivière pour arriver jusqu'à la maison qui est en haut de la rivière. Et voilà, donc oui, quelqu'un qui vient malgré la pluie, c'est qu'il a envie de venir. Et effectivement, elle a débarqué à la maison avec un grand sourire. Puis c'était évident que c'était la bonne personne, en fait. Parce que justement, elle disait que pour elle, c'était pour elle pour la première fois qu'on lui proposait de revenir à ce qu'elle aimait faire, en fait. Travailler avec des enfants, travailler dans la nature. Et voilà. Et peu de temps après, on a rencontré le deuxième grand pilier du projet, qui est Linda. Et aujourd'hui, c'est elles sont deux accompagnatrices, il y a Patty et Linda, qui donc sont là depuis 2 ans. Ensuite, les familles, ça a augmenté petit à petit. Aujourd'hui, il y a 15 familles et les salaires sont meilleurs. Ils ont des salaires plutôt bons comparés à d'autres infrastructures éducatives. Disons que nous, on n'a jamais voulu avoir une mensualité très élevée. On s'est toujours maintenu au même prix de la garderie municipale, en fait. 225 euros, ça inclut l'arrivée à 8h30 jusqu'à maximum 3h de l'après-midi. C'est le même tarif pour tout le monde, à part quelques tarifs un peu préférentiels pour des familles qui ont des difficultés économiques.
Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Amar, elle adore. Elle adore Linda, elle adore Patty. Elle adore aller à la forêt. Et, ce qui est fou, c'est de voir quel bien ça leur fait aux enfants. C'est vraiment étonnant de voir l'autonomie aussi, la manière comme elle bouge, en fait. C'est comme un singe. Elle montre, elle adore escalader, elle monte dans des murs, dans des arbres, mais j'ai pas besoin de me préoccuper, en fait, parce que je vois que la manière dont elle monte et comment elle se concentre, qu'elle se met pas en danger, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vraiment ce que j'imaginais pour les 6 premières années de vie de ma fille, c'était pas qu'elle apprenne à écrire son nom, ou à lire, ou à compter, ce que je voulais, c'est qu'elle développe une confiance en elle-même, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit bien dans son corps, qu'elle ait le courage de dire ce qu'elle pense et de dire quand elle n'est pas d'accord. Et ça y est. En plus de ça, elle écrit son nom, elle compte je ne sais pas jusqu'à combien.
Et comment elle a appris à écrire ?
Je sais qu'un jour, elle était allongée dans le salon et puis elle écrivait son nom. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors un jour, j'ai demandé à Patty, je lui dis, mais toi, t'as appris à Amar à écrire son nom ? Elle me dit non, c'est elle-même. Comment on fait pour s'apprendre à écrire son nom ? Mais apparemment, elle avait des petits bouts de bois. Et puis, elle disait, regarde, est-ce que ça, c'est un A ? Alors, Patty, elle lui a dit, ouais, si tu pousses encore un peu ce bâton comme ça, c'est un A. Alors après, on a fait un M. Et ils ont fait encore un A. Et elle a fait un R. Et puis voilà, elle avait compris comment on écrivait son nom. Et après, j'imagine qu'elle l'a traduit dans sa tête. Et puis, elle a pris un crayon et elle a essayé d'écrire Amar. Et puis, ça ressemblait plus ou moins à Amar. Et apparemment, quand elle a fait ça, y a un autre gamin qui est venu, qui a vu ce qu'elle faisait, qui a dit qu'il voulait faire la même chose avec son nom. Alors, il a écrit Chalok. Et comme ça, donc du coup, tu vas te promener dans la forêt, là où ils vont. Et puis, tu trouves des petits Amar au sol, des Chalok, des ceci, des cela.
France Culture, les pieds sur terre.
Est-ce qu'il y a des dangers dans la forêt ?
Solamente la profesional.
Seulement les chenilles processionnaires.
Tenemos que ir al médico para que te vean. Son unas tontitas rojas como esta de aquí. Ouais.
Donc si les chenilles elles te piquent, il faut aller voir le médecin parce qu'il y a des petits boutons rouges qui apparaissent.
Non,
c'est pas rouge, elle c'est blanc et tout autour c'est rouge.
Et tenemos que poner aloe y que es la medicina más bien y chupar un poquito.
Donc il faut mettre de l'aloe.
De l'aloe vera?
Ouais, de l'aloe vera, c'est la médecine et de la salive. Sur les mains.
Y primero tendríamos que chupar y después la aloe.
Donc c'est premier la salive et après le aloe.
Je suis Polly, la mère de Loïc. Je suis mallorquine, oui, et toute ma famille est de Mallorca. J'ai connu à Pierrick, en Barcelone. On habite ici depuis 8 ans déjà. Moi, je viens du monde très traditionnel. Et mon entourage, c'est pas. J'ai pas personne qui est dans une école alternative. Toute ma famille est très traditionnelle. Mon cuisinière et mon père était taxiste.
Ta mère était cuisinière et ton père était chauffeur de taxi.
Si. Donc pour moi, bon, c'était normal de porter l'enfant à la crèche municipale comme tout le monde. Quand j'étais enceinte, je commence à parler avec Yasmine et Adria. Ils avaient déjà cette idée de créer l'école de bois. Il y a des petites réunions, je commence à écouter et pour moi c'est une illumination, non? Et bon, et ça, et je commence à lire sur le sujet et tout ça.
Quand on a commencé à parler de l'école des bois entre nous, moi j'étais plus réticent que Polly, qui était beaucoup plus ouverte sur le sujet. Loïc, c'était donc notre premier fils. Ton fils, il a 2 ans. C'est petit, 2 ans. C'est petit, 2 ans. Surtout quand t'es papa, t'es un nouveau papa. Tu vois ça tout petit. Le laisser comme ça, gambader dans la montagne, sauter de pierre en pierre. Ça, c'est vrai que c'est pas réconfortant, là, comme au départ. Tu te dis, oh, mais oui, mais toute la journée, ils sont tout petits pour être toute la journée dehors. Mais il va faire froid. Et on me dit, ben, s'il fait froid, les jours où il fait froid, ben, tu l'habilles plus. Oui, mais s'il pleut, ben, les jours où il pleut, on lui met un caoué, on lui met un ciré, on lui met des bottes, et ils sont sous une bâche, et ils sont protégés. Oui, mais tout le thème des repas, comment ils vont faire? Ils vont manger froid tout le temps? Ben non, tous les enfants qui vont donc à l'école des bois ont des tupperwares thermiques. Normalement, ça tient pendant 3-4 heures facilement la nourriture suffisamment chaude. Tous les doutes qu'on a eus, je pense, ils ont été résolus de manière presque naturelle, parce que quand Loïc a commencé, ça faisait déjà 2 ans que c'était en marche. Donc on a pu voir comment ça s'est passé avec les familles qui avaient déjà leurs enfants à l'école des bois. Il n'y en a pas un qui a donné une mauvaise critique.
Moi, je suis mallorquine, non? Donc, bon, je ne sais pas, ce n'est pas les autres, mais tous les voisins et tal, à moi, ils me disaient plein de choses, les gens de village. Où est-ce qu'il va, Loïc? Il ne va pas à la crèche? Non, maintenant, il va à l'école de bois. Et là, toute la journée, mais il va avoir froid, pauvre. Et tu le laisses là, non? Donc,
c'est ça, il y a toujours, effectivement, le petit commentaire de temps en temps. Et ton fils, il va être dehors toute la journée. Le fait de le retirer de la crèche municipale et de le mettre donc à l'école des bois, ça a été un grand changement positif. Un exemple qui a été vraiment flagrant, c'était donc au niveau des nuits. Tout le temps qu'il était à la crèche municipale, il dormait très mal, il se réveillait très souvent, il partait dans des colères, des hystéries. Et quasiment du jour au lendemain, en moins d'une semaine, il s'est mis à dormir les nuits entières. Il était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Des siestes plus tranquilles. Il a appris, moi ce que je trouve, c'est qu'à l'école des bois, il a appris à demander de l'aide, à dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, au lieu de directement faire des colères. Tu veux venir, Loïc?
Oui.
Tu viens dire bonjour?
Hola.
Hola, Loïc. Il a quel âge?
Il a 3 ans.
Toi, tu vas à l'école des bois?
Si. Oh, viens, pajarito.
Pajarito, un oiseau, un petit oiseau.
Et tu marches tout petit comme ça? Tu marches dans la montagne?
Si.
C'est pas trop difficile d'être dehors?
Non.
Il va avec son sac à dos.
Et la montagne, il est ici.
C'est cette montagne-là?
C'est pour que... Et celui-là a quitté la montagne.
Souvent, quand ils reviennent donc de l'école, ils sont... noir, couvert de terre, couvert de branches, avec un sourire d'oreille à oreille, et fatigué quand même, faut reconnaître, parce que il se démène pas mal dans les bois. Mais on sent qu'il est vraiment épanoui et qui revient tous les jours radieux de ce qu'il a pu faire, quoi.
Quand j'allais chercher Loïc de la crèche traditionnelle, C'était aujourd'hui, il a été bien ou mal en fonction des règles, non? Il a mangé bien, il a mangé mal. Je lui ai dit de faire ça, il a dit non. Et, mais maintenant, c'est
quand on leur dit qu'alors aujourd'hui, ça a été oui, aujourd'hui, il a ramassé des asperges sauvages, ou il a joué à se construire une maison, ou il est monté dans un arbre tout seul. C'est pas juste, il s'est comporté bien ou il s'est comporté mal. C'est qu'est-ce qu'a fait ton fils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a appris à faire tout seul? Et non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas.
Reconozco el mirlo. Reconozco el petirrojo. ¿Cuál conocemos más? El pitroche.
Je reconnais le mirlo, je reconnais le pitroche.
Le merle.
Ouais. Et le rouge-gorge, ouais.
Se puede reconocer si lo escuchamos.
Tu peux reconnaître si tu les écoutes.
Y lo puedes reconocer si alguien te lo dice y también si lo escuchan muy bien y sabes cuál es.
Tu peux le reconnaître si il y a quelqu'un qui t'explique quel est l'oiseau qui chante et surtout si tu les écoutes très bien.
C'était l'école de la forêt, reportage Inès Leroux, réalisé par Philippe Baudouin avec un coup de main d'Annabelle Brouard. Cette histoire a déjà été diffusée en mars 2017. Merci à Yasmine Amar et à Adria pour la traduction, à Pierrick Le Guillou, à Pauline Loïc et à tous les autres parents et enfants de CES Milanès. Merci à Emmanuel, Marty, Laetitia, Kao Huguenin, Bruno Rigal, sans lesquels cette histoire ne serait jamais parvenue à vos oreilles. Merci également à Sandrine Chaperon et à Jeanne Delocq.